RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story 21e, 22e, saison des GG.
On les compte plus.
Avec aujourd'hui la sophrologue Laura Varton-Martinez, avec l'avocat Charles Consigny, enseignante Barbara Lefebvre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est la deuxième heure des GG. Dans un instant, on va recevoir Arthur. Ensuite, on parlera de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui a lancé sa campagne pour 2027. Campagne qu'il a lancée contre les apôtres du déclin, c'est ce qu'il a dit. Il veut donner l'espoir, Gabriel Attal. Est-ce que le message peut passer ? Vous viendrez en discuter avec nous au 32-16. Et puis ensuite, nous recevrons Mathieu Vallée, le député Rassemblement National, à 11h. C'est l'ancien commissaire de police qui viendra parler avec nous de cette soirée à débordement et de violence encore après la finale et de la Ligue des Champions et la victoire du Paris Saint-Germain. On accueille notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
Arthur et ses bagues, même la nuit ne veut pas de moi aux éditions Grasset. Bonjour Arthur.
Salut.
Reverra-t-on un jour au Parc des Princes ? Double champion d'Europe.
Moi, j'ai regardé le match à la télévision. C'est une réponse, ça, ou pas ? Non, j'ai regardé le match. Je supporte le Paris Saint-Germain. J'ai un fils qui est fan. Tout le monde avait le maillot devant la télé.
Ma question, c'était, vous reverra-t-on au Parc des Princes ?
J'espère. J'espère, ouais, mais moi je regarde le foot à la maison. Parce que vous savez, je fais très attention à chacune des réponses que je vais donner dans cette émission. Je veux faire très attention parce qu'à chaque fois que je passe dans une émission, je me fais défoncer, quel que soit le sujet. Donc j'ai décidé de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche. Mais plus sérieusement, j'y suis allé l'année dernière d'ailleurs. Ouais.
Mais parce que tout à l'heure on parlait des débordements.
Oui, mais ça représente pas tous les fans
bien sûr,
du PSG.
Mais ce que j'ai noté par exemple, qu'à Bordeaux, on s'en est pris à une synagogue. C'est-à-dire que
vous savez,
les débordements, les violences touchent aussi.
Je vais vous donner une info.
Il y avait les mortiers aussi. Vous avez entendu ça, c'est pour les juifs à propos des tirs de mortier.
Oui.
Il y a un gars qui lui répond, dit pas ça frérot, il dit ouais, wesh, c'est vrai.
Alors je vais vous donner une info qui est pas particulièrement officielle, mais vous savez qu'il y a beaucoup de synagogues qui ont fermé samedi. Il n'y a pas eu d'office samedi pour toutes les synagogues qui étaient aux alentours du parc et des zones où il y avait les fans.
Mais comment vous expliquez ce phénomène ? C'est-à-dire que ces violences, ces débordements,
ça s'appelle l'antisémitisme.
Ça touche aussi les juifs.
Bah écoutez, j'ai pas entendu parler d'une église ou d'une mosquée qui était particulièrement protégée à la sortie du match du PSG. Bah on avait déjà vu des banderoles pendant la saison. On a un sponsor qui est le Qatar, qui est le financier du Hamas. Alors, on va pas se mentir. Donc peut-être que de toute façon, le plus important pour moi, c'est de rappeler qu'il faut pas faire d'amalgame entre les fauteurs de troubles et les fans du PSG, parce que quand même l'immense majorité, Dieu merci, des fans du PSG ne sont pas violents. Mais si avant chaque match, mes bureaux sont derrière les Champs-Élysées, on est obligé de barricader les bureaux, on est obligé de barricader les boutiques, on se met en état de siège avant chaque match du PSG, ça devient compliqué.
C'est triste pour le pays, l'image qu'on renvoie.
Bah oui, c'est triste. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'en parle dans mon livre, puisque j'ai un passage là-dessus où je raconte il y a un an exactement la même chose, et ça me fait toujours sourire de voir les pouvoirs publics, ce que je raconte dans mon livre, qui nous explique comment Israël doit agir face au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis, à l'Iran, mais qui sont pas capables de gérer quelques milliers de gamins agités, quoi.
Ce livre. On ne va pas agir face aux gamins agités comme on doit agir face aux Houthis, à l'Iran.
Non, j'ai dit, on nous donne des leçons de comment gérer une guerre alors qu'on n'est pas capable de contrôler des
mômes. On manque de fermeté et de muscles quand même en France.
Je sais pas, j'en sais rien. Je dis juste que j'ai l'impression que les gens, ces jeunes gens qui sont un peu énervés, torse nu et qui hurlent et qui balancent des mortiers en criant c'est pour les juifs, je pense qu'ils ont peut-être pas conscience que l'antisémitisme c'est un délit et que c'est pas une opinion, et surtout qu'ils ne mesurent pas le risque de finir en prison s'ils continuent ce genre d'action. Est-ce qu'ils vont aller en prison tous ceux qui ont été arrêtés ?
Donc il y a un sentiment d'impunité.
Peut-être. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de pays où on s'amuse à se jeter sur les voitures de police, quoi. Il y a des pays où si vous vous approchez une voiture de police, bah, ils se défendent.
Pourquoi vous avez repris la plume? Alors, il y a eu ce succès hein, du premier qui vous a surpris. Hein. J'ai perdu un bédouin dans Paris. Vous avez été vous-même étonné du succès. 80 000 livres vendus, ce qui est effectivement énorme aujourd'hui parce que c'est compliqué de vendre des livres. Pourquoi avoir voulu reprendre la plume pour ce tome 2, en quelque sorte?
En fait, le premier livre, c'était un peu... Je racontais, de mon point de vue, le séisme. Et le tome 2, on va dire, ce sont les répliques. Je pensais que mon premier livre est sorti le 1er octobre, deux semaines avant la libération des otages. Et moi, j'écrivais tout au long du livre que la guerre s'arrêterait le 13 octobre, quoi. Enfin, le jour où les otages sont libérés. Et je pensais que, aussi bien à Gaza qu'en Israël, les familles, les peuples allaient commencer leur deuil et à commencer à se reconstruire. Et en fait, je me suis aperçu qu'après le 13 octobre, ça a été pire et que l'orgie antisémite qui déferle sur la planète n'a jamais été aussi forte depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc je me suis dit je ne pouvais pas ne pas raconter la suite, d'abord parce que je voulais à tout prix raconter la libération des otages, parce que moi-même j'étais très impliqué auprès des familles et des proches des otages, et donc c'était pour moi important. J'avais presque cette frustration de pas avoir raconté, de pas avoir couché sur un livre ce moment-là, sachant que c'est pas vraiment un livre, ce sont des c'est un journal quelque part, ce sont les moments,
un journal de bord, hein.
Marqués, voilà exactement mes trois dernières années,
et surtout un journal où vous racontez votre angoisse, vos nuits sans sommeil.
Somatisation.
Oui, alors je suis pas le premier à le dire, mais c'est vrai que le corps encaisse beaucoup.
Et vous demandez comment va votre dos d'ailleurs.
Bah mon dos va pas mieux. J'ai tout essayé. Je disais toujours c'est parce que j'en avais plein le dos. On me disait t'en as plein le dos, mais en fait non, j'en ai pas plein le dos. Je pense que c'est parce que j'essaie de tenir le plus droit possible tout le temps et qu'au bout d'un moment, ça crée des douleurs. Mais objectivement, je dors peu, mais pour une raison simple. Moi, je sais pourquoi je ne dors pas. Je ne dors pas parce que j'ai participé au documentaire sur les massacres du festival Nova. Ces jeunes qui ont été massacrés, j'ai vu les images non floutées, les images des terroristes et les images des jeunes qui se filmaient avec l'iPhone, et je n'arrive pas à retirer ces images de mon cerveau.
Et puis dans votre quotidien, comme vous-même, vous êtes menacé, que vous êtes entouré d'une garde rapprochée pour votre sécurité, on peut pas sortir de ça finalement. Votre vie, celle que vous décrivez, elle est pas très légère. C'est-à-dire que pour aller boire un coup avec un copain,
pour aller au Parc des Princes, c'est compliqué.
Oui, voilà. Par exemple. Mais même aller dans un resto,
oui, ça fait partie des protocoles. Si je peux plus du jour au lendemain, en deux minutes, un pote t'appelle pour te dire viens, on va boire un coup, je peux pas. Voilà, il faut que ce soit prévu au planning.
Mais ces menaces, elles s'expriment comment?
Écoutez, en général, c'est pas vous qui êtes au courant des menaces. Hein. Je tiens même pas compte de celles des réseaux sociaux parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais au ministère de l'Intérieur, il y a un département qui vous informe de l'état de vos menaces.
Et qui vous dit, il faut vous mettre sous protection policière.
Alors moi je suis pas sous protection policière, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'accompagnent 24 heures sur 24, mais ce ne sont pas des policiers.
C'est votre propre sécurité.
Oui, exactement. On m'a proposé, oui, mais je l'ai refusé parce que j'avais pas envie qu'on me reproche ça aussi. Je voulais pas que ce soit.
Vous avez ça depuis combien de temps?
Contribuable.
Vous avez ça depuis combien de temps?
Depuis 2 ans maintenant.
Et donc tout s'organise par rapport à ça.
Tout est organisé, les vacances, tout s'organise en fonction de ça. Mais je veux pas me plaindre parce que je connais des mômes qui, eux, n'ont pas la chance d'être protégés et qui, quand ils vont à l'école, ont peur de se faire tabasser.
C'est le prix à payer pour parler du 7 octobre, pour écrire, pour venir sur les plateaux télé.
Je crois pas que ce soit le prix à payer, c'est juste c'est le symbole de la folie dans laquelle nous sommes, où on menace quiconque ne pense pas comme les autres, quoi. Voilà. Surtout qu'en plus, j'ai pas pris de position politique. Je n'ai parlé que des otages depuis 2 ans. Je n'ai parlé que de la libération des otages. Et d'ailleurs, depuis que les otages ont été libérés, je n'ai pas fait une seule sortie dans les médias jusqu'à l'arrivée de mon livre. Mais on a décidé que peut-être que, comme je suis à la télévision, comme je suis quelqu'un de médiatique, peut-être qu'on a considéré que ce que je pouvais dire était la parole de ma communauté, ce qui est faux complètement.
Charles Consigny.
Moi, écoutez, le 7 octobre, l'opération à Gaza, etc., c'est un sujet sur lequel je m'exprime le moins possible.
Ah, c'est radioactif.
Justement pour ne pas me prendre des tombereaux de merde sur les réseaux sociaux et ne pas vivre moi-même avec des gardes du corps. Je suis pour l'instant librement tout seul sur mon scooter ou dans le métro et ça me va très bien.
Donc il y a une espèce d'autocensure alors.
En tout cas, moi, j'essaie de ne pas m'exprimer trop sur ce sujet. Néanmoins, si je dois rentrer un peu dans la polémique pour les besoins de l'exercice, Je trouve que vous vous exprimez beaucoup sur ce que vous ressentez, etc., sur ce traumatisme, et je le comprends très bien, évidemment. Mais fort peu sur la disproportion, la furie de cette opération israélienne. Et en fait, moi, je trouve qu'on vous attendrait aussi comme une espèce de puisque vous avez de l'écho. Par exemple, quand j'entends, Alain Finkielkraut, quand il s'exprime, c'est une grande voix très écoutée. Quand il s'exprime sur le sujet, il a des mots très durs contre Netanyahou et il condamne extrêmement sévèrement les morts civiles à Gaza, etc. Et sauf erreur, j'ai pas l'impression que ce soit votre premier. Voilà.
Vous avez lu le livre ?
Hein ? Non, alors je n'ai pas eu le temps de lire le livre.
Alors donc, si vous prenez le temps de lire le livre, vous verrez qu'il y a un passage entier là-dessus.
Je trouve pas
je me fie par exemple à ce que j'entends dans vos interviews que j'attrape par petits bouts ici et là et qui sont.
Mais parce que je réponds à des questions, Charles.
D'accord.
Je réponds à des questions. Vous venez de m'en poser une quelque part. Je vous réponds dans le premier livre et dans le second et vous l'avez lu. Il y a un passage entier où justement je dis que je ne suis pas du tout en accord avec la politique de Benjamin Netanyahou et que les déclarations de Ben Gvir me révulsent. Donc seulement les journalistes me posent la question.
Ça fait du bien que vous le disiez.
Mais je l'ai dit dans toutes mes interviews.
Bah c'est pas ce qui ressort. Bah,
parce que
les gens ont envie que je dise aussi.
Ouais.
Parce que quand je dis ça, ça va à l'encontre du narratif qui est Arthur, il est israélien alors que je suis français, il est juif donc il est d'accord avec ce qui se passe en Israël, donc il supporte la politique de Netanyahou, ce qui est totalement faux. Donc il faut lire mon livre justement.
Ouais, mais
c'est ça qui est intéressant. C'est là où on voit la différence. Ouais. De la haine, c'est-à-dire que c'est bien de l'antisémitisme, parce que si on vous écoutait, vous avez toujours milité pour la paix, vous avez toujours été pour la solution à deux États, vous avez toujours condamné les politiques quand elles étaient extrémistes, mais seulement ce qu'on voit, c'est que vous êtes juif, donc forcément caution de tout ce qui se passe.
Exactement.
Là-bas.
Exactement, et d'ailleurs c'est la première fois en 30 ans que moi je suis français avant d'être juif, et c'est la première fois où on me voit sous le prisme de ma judéité.
Oui.
Et d'ailleurs... Et si aussi le livre a reçu un tel accueil, le premier et le second, c'est aussi parce que j'ai dit ce genre de choses, Charles.
Mais ce qui est frappant.
Donc maintenant, il faut lire le livre.
Ce qui est frappant.
Je sais que vous êtes un garçon sérieux, vous allez lire le livre et vous direz j'ai lu et je me suis trompé.
Absolument. Arthur, ce qui est frappant, c'est quand même la crispation sur ce sujet-là. Comment le conflit israélo-palestinien somme finalement tous les Français à choisir leur propre camp. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'y intéressent pas, qui ne comprennent pas d'ailleurs ce qui s'y passe parce que c'est un long conflit complexe. Mais on est obligé de choisir un camp sans nuance.
On a perdu la nuance. Ben d'abord, oui. On a perdu la nuance. Et puis aussi, moi, il y a un sondage qui m'a frappé, c'est au moment de l'élection de Mamdani à New York. 85% des jeunes ont voté pour lui. Et dans le sondage, on disait que 95% des jeunes ne s'informaient pas autrement que sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le mal du siècle, il est sur l'algorithme de nos réseaux qui fait qu'on se retrouve presque malgré nous à être dans un camp. Et à chaque fois, on nous dit que c'est le camp du bien. Mais quand il y a deux fois le camp du bien qui s'oppose, ça finit toujours mal. Donc aujourd'hui, on a perdu la nuance et surtout, on n'a plus le temps d'expliquer. On n'a plus le temps de raconter. Mais moi, mon livre, c'est pas de parler de ce qui se passe à Gaza, qui est, et je le dis dans toutes mes interviews, qui est une horreur. Voilà, c'est terrible ce qui se passe. Il y a des morts de part et d'autre, que ce soit en Israël, que ce soit à Gaza. Maintenant, la guerre est terminée depuis le 13 octobre. Il y a un cessez-le-feu aujourd'hui en vigueur, même si régulièrement on apprend des très mauvaises nouvelles côté Gazaoui. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais que tout ceci allait calmer le monde. Et en fait, on s'aperçoit que ça a excité encore plus. On va pas se mentir, les partis politiques qui ont importé le conflit en France, qui l'utilisent. Aujourd'hui, la campagne des municipales pour certains politiques n'était que autour du drapeau palestinien. Je ne dis pas que c'est louable, je dis mais ça n'a pas de sens.
Non.
De voir tous ces jeunes qui manifestent dans la rue en criant Free Palestine, From the River to the Sea, sans même savoir de quoi on parle. Je veux bien, mais pourquoi vous descendez pas pour vos jeunes, les jeunes de votre âge qui étaient en Iran massacrés par dizaines de milliers en 48 heures. C'est aussi ce choix des sujets qui est un peu en disproportionné, on veut dire, par rapport à ce que l'on vit.
Laura.
Laura, vas-y Laura.
Ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais déjà vous remercier. Votre livre, il m'a beaucoup parlé parce que effectivement, moi je l'ai pris comme un journal. Je l'ai pas pris comme un roman documentaire ou un pseudo-journaliste qui voudrait relater des faits pour faire entendre sa voix, mais vraiment comme un journal. Parce que moi, la nuit ne me trouve pas non plus pour une autre cause qui est les violences pédocriminelles et les violences faites aux femmes. Et donc j'ai les images, les témoignages, les enfants, etc. Donc j'avais presque les mêmes émotions que vous quand je lisais votre livre. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour moi l'antisémitisme est encore plus grave en ce moment qu'il ne l'a été en 39-45. Je trouve qu'il est beaucoup plus international. Je trouve qu'il n'a pas de logique, il n'a pas de frontières.
Mais je dis pas le contraire.
Non, c'est que vous dites qu'il a jamais été aussi fort que pendant 39-45. Moi, je trouve qu'il est encore plus fort.
Depuis 1939, l'antisémitisme n'a jamais été aussi virulent.
J'avais pas compris, mais ok, super. Enfin, non, pas super. Et, du coup, pas super. Et en fait, j'ai deux réelles questions à vous poser, mais avant, je voudrais vous remercier. Ah,
rapidement, parce que.
Ça que je voulais passer après.
Vous
êtes l'un des rares que je vois et
qui parle
constamment des victimes iraniennes. Moi, j'ai posté à chaque fois. Dès qu'il y avait un visage de victime, je l'ai posté, j'ai rappelé le nom.
Mais c'est important.
Oui, mais on n'est pas nombreux.
C'est important parce que je pense que si. Il y a deux ans, je me plaignais beaucoup du manque d'empathie. J'ai dit, mais les gens n'ont pas d'empathie. En fait, non. Si on veut recevoir de l'empathie, il faut savoir en donner. Et je pense que aujourd'hui, il y a suffisamment de causes qui méritent de l'empathie. Pour moi, je suis aussi choqué par 40 000 mômes qui se font massacrer en 48 heures que par les 500 000 Soudanais, les 15 millions de déplacés, par les homosexuels au Sénégal. On frappe aux portes pour les arrêter les uns après les autres et eux n'ont ni droit au flottis, ni droit à la une des journaux. Je regardais une vidéo qui circulait sur les réseaux où ils avaient fait une étude sur sur France Inter, vos collègues. Et 75% des sujets étaient des sujets contre Israël, 2% sur le Soudan, 2% sur le Congo et 15% pour l'Ukraine. Ça veut dire que ce petit pays qui fait la taille de la Bretagne cristallise quand même quelque chose et il occulte les malheurs du monde entier quelque part. À cause de ce conflit, on ne parle pas des autres conflits, ce que je trouve injuste.
Voilà. Et alors, ma question, du coup, selon vous, si le régime iranien tombe, et qu'il y a une réelle démocratie qui s'installe à Téhéran, est-ce que vous pensez que ça pourrait apaiser l'ensemble de tous ces pays qui veulent
déjà, moi je suis pas géopolitologue, je suis l'animateur télé qui a écrit un livre sur son ressenti après le 7 octobre.
Je sais certainement
une chose, c'est qu'aujourd'hui toutes les menaces terroristes de la planète viennent de proxy de l'Iran. Donc moi je crois en une seule chose, c'est les accords d'Abraham, c'est la paix. C'est la seule chose qui puisse arriver. Tous les pays qui ont signé la paix avec Israël se portent très bien. L'Égypte a signé la paix avec Israël, il y a plein de pays du Moyen-Orient qui sont en paix, il n'y a plus de guerre. Et c'est ce qu'on veut, on veut la paix, tout le monde veut la paix. Qui ne veut pas la paix? C'est presque bateau de dire ça.
Barbara.
Dans un instant, la suite avec Arthur, il reste avec nous. C'est son deuxième livre, même La nuit ne veut pas de moi, aux éditions Grasset, question de Barbara Lefebvre, puis on continuera. De parler bien sûr de ce que vous ressentez, de vos émotions. Peut-être qu'on parlera un peu de télé aussi. On verra.
Oui,
à tout de suite avec les GG, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
C'est l'animateur, le producteur Arthur qui est avec nous aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules avec ce livre. Même la nuit ne veut pas de moi aux éditions Grasset. C'est la suite de J'ai perdu un bédouin dans Paris. On en parle de ce qu'il ressent aujourd'hui, la manière dont il ne vit plus ou ne dort plus depuis le 7 octobre. Et puis avec tout ce qui se passe, avant de donner la parole à Barbara, dans votre livre vous relatez aussi des conversations avec des copains au téléphone.
Ouais.
Où tout a changé, même dans le rapport que vous avez avec vos amis dans les conversations, où inévitablement, à un moment, boum, en fait, revient aussi. Ah, mais exactement. Vous, les juifs, ou quoi que ce soit.
Exactement. Et puis surtout, c'est parce que je suis français et juif, je dois justifier de ce qui se passe dans un conflit qui est à quelques milliers de kilomètres de chez moi. Et quelle que soit la justification que je vais donner, on va répondre, mais de toute façon, c'est pas objectif parce que t'es juif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me suis retrouvé à répondre à des questions dans des dîners où je me dis mais pourquoi on me pose la question à moi? Pourquoi on me pose pas une question sur les Ouïghours par exemple? Je pourrais répondre. J'étais dans la rue quand il y a eu des manifs pour les Ouïghours. Pourquoi on me pose pas une question sur les LGBT? qui sont jetés du haut des immeubles.
Vous faites des livres sur le sujet quand même.
J'ai fait un, le livre, c'est pas sur question, le
sujet. Parce que les livres.
Mais le sujet de mon livre, que vous n'avez toujours pas lu, n'est pas la guerre à Gaza.
Non, c'est pas ça.
Le sujet de mon livre, c'est les réactions et ce que j'ai vécu après le massacre du 7 octobre.
Oui, je comprends. Mais
ce qui a changé,
c'est pas un livre sur les Ouïghours.
Ce qui a changé.
Non, je dis juste que dans un dîner, quand je raconte ce dîner-là, c'était avant que je sorte un livre.
D'accord.
Charles, il faut lire maintenant. Il faut s'intéresser aux invités.
Non, mais moi, j'ai besoin que les réponses soient claires aussi. Bon,
est-ce qu'elles sont suffisamment claires?
Je me mets à la place des auditeurs. Je pense que c'est plus clair.
Qui, comme toi, n'ont pas lu le livre.
Exactement.
Mais en parle.
Ce que vous racontez aussi.
C'est d'ailleurs le problème majeur des gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont pas lu le livre.
Ce que vous racontez aussi, c'est que pour faire le casting de vos émissions, inviter des humoristes, des artistes, c'est plus compliqué parce que certains maintenant ne veulent plus venir.
Alors,
pas tous, mais une petite minorité.
Écoutez, on parle de 3 artistes qui m'ont appelé. Déjà, ils ont cette honnêteté intellectuelle pour me dire « Je ne peux pas venir faire ton émission, pas parce que je n'ai pas envie de la faire, parce que si je viens la faire, je vais me faire défoncer par ma propre communauté. » Donc c'est pas la même chose.
Des artistes que vous ne citez pas.
Non, parce que s'ils m'avaient dit je veux plus faire tes émissions parce que t'es juif ou parce que tu as pris des positions qui ne correspondent pas à mes convictions, je pourrais débattre de ça. Mais là ils me disent je ne viens pas parce qu'on m'empêche, ce qui est une pression terrible. Hein. Vous pouvez pas savoir la pression de l'algorithme, la pression digitale, elle est terrible sur les artistes. On le voit bien avec le cinéma, on voit bien avec les déclarations. Vous prenez la déclaration de Gilles Lellouche. Il a pris une pression mondiale et médiatique sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a un tribunal, il y a une espèce d'inquisition aujourd'hui qui est médiatique et digitale et il faut y répondre. Donc non, aujourd'hui, j'ai des artistes qui ont eu peur de venir chez moi, mais ils sont que 3 sur des... Et ensuite,
alors, comment s'appellent-ils?
Je ne vous donnerai pas leur nom. Par contre,
ce qui est fou, c'est tout ce que s'est pris Gilles Lellouche, Gilles Lellache.
Non, mais c'est complètement dingue.
C'est
parce
irrationnel.
Qu'on l'a sommé de donner la réponse que le journaliste voulait entendre.
On lui a sommé de dire « Oui, je voterai LFI ».
C'est dingue. Non, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle forme d'inquisition des médias. C'est complètement fou. En plus, vous qui avez fait mes émissions, certains d'entre vous deux brillamment... Il y a un qui a été plus brillant que l'autre dans mes émissions,
fatigué,
mais on va pas revenir là-dessus.
J'étais fatigué à chaque fois.
C'est bien parce que c'est une émission de culture générale. Il y en a un qui est très très au-dessus de l'autre en termes de réponse. Vous voyez que s'il y a bien un endroit dans mes émissions où il y a de la diversité, il n'y a pas de problème
c'est
là-dessus.
C'est ça qu'on aime la diversité.
Oui, bien sûr.
Évidemment, votre livre, il est important, mais parce que vous expliquez quand même comment est-ce qu'on tient debout. Malgré la douleur, parce que c'est quelque chose de très personnel ce que vous racontez, comment vous tenez debout malgré la douleur que vous éprouvez, aussi bien émotionnelle que physique, parce que effectivement ça impacte, et comment aussi vous arrivez à masquer vos émotions en public, parce que vous avez une activité qui vous oblige à être aussi dans une jovialité dans vos émissions, et que malgré tout ça, il faut faire bonne figure pour essayer de tenir debout, et vous expliquez justement de votre livre, et c'est pour ça que ça peut parler à des gens qui sont aussi à proximité d'autres traumatismes, comment on crée cette bulle pour continuer à vivre. Et votre livre, il s'ouvre sur ce cauchemar que vous faites pendant 17 mois. C'est un cauchemar qu'on a tous fait quand on a milité pour les otages. Moi, mon cauchemar, ça a été pendant 17 mois, tous les soirs, en fermant mes yeux, de voir Kfir et Ariel Bibas.
Les enfants qui ont été
kidnappés, qui ont été massacrés par des milices proches du Hamas. Et cette douleur-là, Je comprends votre livre et je trouve magnifique, mais je vais vous le dire franchement, Arthur, plein de gens ne la comprennent pas et ne la comprendront jamais. Il y a des gens qui comprendront pas qu'on n'en a pas dormi pendant 17 mois et que quoi qu'on fasse, quand on fermait nos yeux, c'est ce qu'on voyait, parce qu'eux vont vous répondre ce qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, mais les enfants à Gaza, oui, mais etc. Ils ne comprennent pas l'indicible de ce que nous, en tant que juifs, et je dis bien là, ici, nous, en tant que juifs, on a pu ressentir par rapport à tout ce que ça a comme écho de notre propre vie. Et par ailleurs, en plus, pour vous comme pour moi, on n'est pas d'origine ashkénaze. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a pas forcément le poids familial de la Shoah. On a ce poids mémoriel, mais on l'a pas en plus. On n'a pas notre arrière-grand-mère, notre arrière-grand-père. On vient de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, c'est quelque chose qui a été très violemment ressenti. Et moi, je suis contente que votre livre marche, que vos livres marchent, mais je continue à avoir à la fois cette colère et cette tristesse de penser fondamentalement que nos compatriotes français non-juifs ne comprendront jamais ce que nous, on a vécu pendant 17 mois et ce qu'on continue à vivre aujourd'hui. Donc voilà, je veux vous le dire, parce que vous avez quand même un petit peu cet optimisme, mais je vois à la fin de votre livre, dans la conclusion, que Judith, vous dit mais si, il faut y croire encore, alors que vous quand même vous sentez qu'il y a quelque chose qui est complètement cassé.
Alors moi je demande pas à mes proches, à mon voisin, à mes amis non juifs d'avoir ma douleur,
oui,
ni de la comprendre. Mais si au travers de ce livre, ils ont pu la ressentir entre les lignes, par exemple, je vois d'abord, quand on vous dit gentiment que ce livre a été vendu à plus de 80 000 exemplaires, ce ne sont pas que des juifs. Et dans la rue, j'ai des sourires, des choses que je n'avais pas avant, des personnes qui me disent « je n'imaginais pas ». Et d'ailleurs, souvenez-vous, dans le premier livre, je racontais le spot de publicité que nous avons fait avec Maurice Lévy contre l'antisémitisme. Il n'était pas à destination des juifs. Il était à destination de l'immense majorité silencieuse qui n'est pas antisémite, pour leur dire « voilà ce qui se passe, c'est concret, les étudiants, quand ils vont à la fac, ils cachent leur étoile de David, les gens retirent leur mezouza, les jeunes changent leur nom quand ils prennent un taxi ». Ça, c'est la réalité concrète de l'antisémitisme que les juifs vivent en France au quotidien. Maintenant, je ne demande pas à mon prochain d'avoir ma peine. Je lui demande d'essayer de la comprendre, mais
de l'entendre.
Et de l'entendre, voilà. Et moi, mon but, c'est pas un but pour convaincre, hein, c'est un but pour raconter. Et si, ben, il y a une infime minorité de personnes qui l'ont lu, ils l'ont compris, alors je suis ravi. Je suis ravi.
Oui, mais vous vous rendez compte que ça a payé.
Je ne veux pas perdre d'espoir. Non, mais je ne veux pas perdre d'espoir.
L'antisémitisme dégoulinant, cette orgie antisémite, elle a payé. Regardez au municipal, elle a payé. Ça a permis à certains LFI d'obtenir des mairies qu'ils n'auraient jamais obtenues s'il n'y avait pas eu aussi cette dégoulinade-là.
Sur combien de mairies? Sur combien de mairies?
Oui, mais regardez, ceux qui ont été réélus en 2024 suite à la dissolution, c'était ceux qui tenaient les propos les plus délirants sur le génocide à Gaza, etc.
Mais ils ne sont pas majoritaires, ni à l'Assemblée, ni dans les municipalités.
Mais oui, mais encore une fois, moi je comprends ce que vous dites, c'est toujours les toutes petites minorités qui font l'histoire. Oui. C'est-à-dire que quand c'est des gens qui tiennent les propos les plus radicaux d'un côté comme de l'autre, qui sont les représentants de quelque chose et qu'on va tellement écouter au point de carrément les réélire dans quelque chose qui est quand même extraordinaire, qui est l'espace de la représentation nationale, nous, on peut le ressentir comme étant la fin d'un pacte social.
Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire?
Je ne sais pas. Justement, c'est tout mon sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est bien la question.
En tout cas, vous faites bonne figure, je reprends le terme utilisé par Barbara, parce que quand on vous voit à la télévision, quand on voit animer des émissions, bon là c'est le professionnalisme qui agit, parce qu'on sent pas cette douleur. Vous prenez encore du plaisir à faire de la télé?
Ah oui, oh là là, je tourne la semaine prochaine, je peux vous dire que quand vous n'êtes pas invité la semaine prochaine?
Ouais, non.
Ah, je crois que c'est les champions qu'on invite.
C'est pour ça, je comprends pas pourquoi j'y suis pas.
Je comprends,
Olivier, il comprend pas, mais moi je comprends.
Estelle Denis, j'imagine.
J'attends ce moment avec impatience. Le moment
où t'es pas deuxième, toi?
Mais il y a le jeu des boîtes qui va revenir ou pas?
Non, pas du tout.
Non?
Pas du tout. Non, c'est le 25e anniversaire, on m'a posé la question, est-ce que j'aimerais que ça revienne? Je dis avec moi,
regardez ça en famille, on adorait ça.
Mais oui.
Mais on a beaucoup parlé de la télé public. Vous êtes intéressé à la commission à l'oncle, au fait de savoir est-ce qu'il faut continuer à dépenser de l'argent pour la télé publique, c'est important, la différence entre le public, le privé, c'est des choses qui vous intéressent?
Écoutez, j'ai pas pris de position d'abord parce que je produis beaucoup pour la télévision publique. Ouais. Voilà, et j'ai regardé ça, j'ai observé ça, je trouvais que c'était un petit peu exagéré quand même. Mais voilà, pour le reste, j'ai
parce
pas.
Parce que c'est quand même un métier qui évolue aujourd'hui.
J'ai pas été reçu d'ailleurs par Charles Allon.
Et pourquoi? Oui, c'est dommage.
Mais parce qu'il a estimé qu'il n'avait rien à me reprocher.
Vous avez été vexé?
Non, pas du tout. Les journées sont assez longues. Mais j'attends la télé avec impatience parce que c'est une respiration. Regardez, je vais faire une semaine d'interview comme celle-ci, assez intense. Et je vais retrouver ma cour de récréation et là où c'est mon métier. Ma vie, c'est pas d'aller sur les plateaux télé et dire qu'il y a de l'antisémitisme.
C'est un métier vieillissant, la télé?
Je pense
déclinant par rapport aux audiences, sachant qu'il y a toute une jeunesse, alors j'imagine vos enfants ou
les qui autres, sont sur YouTube.
Qui se mettent sur YouTube plus que sur la télé.
Mais souvenez-vous, il y a une époque quand on est passé du vinyle au compact disque et du CD à Spotify, tout le monde a dit c'était la fin de la musique et finalement la musique continue. Je pense que la télé va se réinventer et qu'elle est en train de pivoter. Voilà. En fait, de toute façon, la télé, c'est un objet désormais. Oui. Hein. C'est juste, aujourd'hui, les chaînes de télé linéaires telles qu'on les connaît, et vous en êtes une d'ailleurs aussi, eh bien, elles sont en train de se renouveler, de se réinventer. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Maintenant, les chiffres sont là. Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télévision. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le programme qu'ils ne voient pas, par exemple, sur TF1, mais ils continuent à le voir ailleurs. Voilà, c'est tout. Mais
la radio, ça vous manque pas, la radio?
Énormément. À chaque fois que je suis derrière un micro, j'ai envie de reprendre. On me propose très régulièrement d'en faire. Mais pour moi, la radio, c'est quelque chose qui doit être quotidien.
Une émission longue comme vous aviez sur Fun Radio?
Ah, le record? Les 34 heures de...
Non, une quotidienne. Une je quotidienne. Veux dire, une...
Alors aujourd'hui, j'adorerais, mais le problème c'est que je suis chef d'entreprise et que je ne peux pas considérer utiliser 4 heures de ma journée pour m'asseoir derrière un micro. Et en plus, c'est pas 4 heures, parce que quand on fait les choses bien, on prépare l'émission, on lit les livres.
Contrairement à Charles, non.
Attendez, vous avez été rajouté.
Vous pouvez venir au GG, on prépare
Je plaisante, Charles. Excusez-moi.
On a le livre depuis 15 jours.
La radio, la radio, pour moi, c'est quelque chose où on le fait vraiment ou on le fait pas. Voilà. Donc, quand on me propose de faire une émission hebdomadaire, ça m'intéresse pas. Pour moi, la radio, c'est le matin. C'est prendre les gens au saut du lit et y aller à fond. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps. Voilà. Merci. Peut-être un jour.
Merci, Arthur. Dans un instant, on va parler de Gabriel Attal, de sa campagne positive. Est-ce qu'il est à côté de la plaque ou est-ce qu'il a raison? Tiens, juste pour 2027, deuxième tour, Mélenchon-Bardella, vous faites quoi?
Vous croyez vraiment que je vais répondre à cette question?
Ah, je tente.
Votre Alice, non?
Vous me proposez quoi?
Mélenchon-Bardella, vous faites quoi?
Vous me proposez les deux extrêmes? Eh ben, je ne sais pas, on verra le jour même. En tout cas, ça c'est la réponse, tu vois, je veux dire, qui va occulter tout le reste. L'interview.
Voilà.
Donc je ne répondrai pas, mais vous savez très bien ce que je fais. Mais, merci.
Non, c'est
Arthur.
Ça la réponse.
Merci Arthur d'être passé par les GG. Il est 11h25. Gabriel Attal, la campagne positive, redonner espoir. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut avoir cette ligne-là? Ou est-ce qu'il se plante, ancien Premier ministre? Allez, à tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules, il est 11h20. Vous êtes avec nous, bien sûr, en direct sur RMC et RMC Story, radio, télé. On continue de discuter avec Charles Consigny, avec Laura Varton-Martinez, avec Barbara Lefebvre. Je propose qu'on s'intéresse au lancement de la campagne du Gabriel Attal, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, l'ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui veut se lancer dans une campagne positive. Il veut donner l'espoir aux Français.
Mes amis, tout l'enjeu de cette élection présidentielle, toute la question à laquelle les Français devront répondre par leur bulletin de vote, voulons-nous que la France reste cramponnée à un modèle du passé ou voulons-nous bâtir l'avenir? On veut bâtir l'avenir. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Mes amis, je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir.
La positive attitude.
C'est Laurie qui est déguisée en
gage.
Moi, je suis allée voir Laurie en concert.
Ah bah
voilà.
Il a son slogan.
C'est Raffarin qui avait repris d'ailleurs la positive attitude.
Il a désormais son slogan de campagne, Gabriel Attal. C'est la force d'agir qui était écrit sur son pupitre. Et il ne veut pas des prophètes de malheur. Il veut donner à la France des raisons d'espérer.
Oui, il veut lutter contre le déclinisme ambiant et peut-être aussi lutter contre son propre déclin, même si pour l'instant son entrée est plutôt réussie en campagne. En tout cas, il n'est pas distancé par son principal concurrent du Bloc central, Édouard Philippe. Il y a match, comme on dit. Et en fait, justement, c'est pour se distinguer aussi d'Édouard Philippe, le maire du Havre, qui va peut-être promettre un peu plus de sang et des larmes que ce qu'il lui propose. De l'optimisme, du positivisme, il ne veut pas laisser l'optimisme aux populistes. Alors, est-ce que c'est un espace politique qu'il a raison d'occuper? Est-ce que c'est pas complètement hors sol aujourd'hui de se montrer optimiste dans une France qui semble quand même plutôt décliner et dans une situation économique qui chaque jour s'aggrave? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour être élu, il faut aussi vendre un peu d'optimisme?
Est-ce que vous pensez qu'il a raison de miser sur l'espoir, Gabriel Attal? 32-16 pour le dire au GG, aux grandes gueules. Laura?
Et moi, le problème, c'est que je ne le trouve pas encore légitime. C'est-à-dire que je n'ai pas réellement d'avis clair sur ce que pourrait donner M. Attal en tant que président. Je trouve qu'il n'a pas fait ses preuves de la même manière qu'Edouard Philippe. Ça a été trop rapide. Ça a été, pour Gabriel Attal, c'est beaucoup trop tôt. Je ne sais pas comment il est construit politiquement. Maintenant, moi, je veux pas d'optimiste, je veux pas ou d'obscurantisme. Je veux du pragmatisme, de l'honnêteté, et qu'à un moment donné, on mette des mots MOTS sur des mots MAUX et qu'on les porte et qu'on les assume et qu'on les prenne à bras le corps ou à bras le cœur. Je commence à en avoir marre.
Pas forcément des formules, quoi.
C'est ce que j'allais dire. J'en ai marre de tous ces éléments de langage. J'en ai marre qu'il y ait une partie qui nous dise la Nouvelle France. J'en ai marre que l'autre partie nous dise tout est de la faute de l'immigration. Et j'en ai marre marque au milieu, on ne sait pas trop sur quel pied danser, que maintenant on nous prenne l'optimisme comme raison de campagne. J'aimerais qu'on dise les choses factuellement et qu'on les résolve une bonne fois pour toutes.
Charles.
Non, c'est très sympathique, c'est souriant, c'est presque adolescent. Mais
qu'est-ce qu'il y a d'adolescent là-dedans?
Les images.
Le monde en bisounours.
Non, les images me font penser à une série sur une université américaine de gens de 25 ans, si tu veux. Donc c'est charmant, mais ça c'est de la fiction. Moi, je pense que il faut dire la vérité aux gens. C'est très bien d'être optimiste quand on a 10 ans de bilan, si ce n'est plus. C'est même assez gonflé pour dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, vous êtes responsable ou co-responsable du merdier dans lequel vous laissez le pays et vous arrivez au bout de vos 10 ans de responsabilité en disant, ah ben non, mais soyez pas des clinistes, on va y arriver. Ça, intellectuellement, c'est exceptionnel. Je pense que quand même, c'est un peu grossier. Et je pense que on est à un état du pays, un état de notre histoire collective en tant que Français, où je pense que les Français ont envie qu'on leur dise la vérité, pas qu'on leur fasse de la com, des images, des slogans, du TikTok, etc. Ils ont envie qu'on leur dise la vérité. Or, la vérité de 10 ans de macronisme ou de macrono-attalisme...
Il n'a pas cité une seule fois Emmanuel Macron hier. Il a juste dit « Monsieur le Président ». Qui remerciait pour le parcours. Ah,
on sait que maintenant les deux sont en rupture.
Leur bilan, au bout de 10 ans, c'est 3 500, si ce n'est plus aujourd'hui, milliards d'euros de dettes. C'est cette jeunesse hors de contrôle qu'on a vu encore déferler ce week-end, dont on ne sait pas quoi faire. C'est une diplomatie qui a reculé partout dans le monde. C'est des Français qui n'ont jamais été aussi taxé jusqu'à l'absurde. Moi, je pense qu'il faudrait même, à ce stade, des mouvements de désobéissance civile, tellement ça devient suffocant pour beaucoup, pour les indépendants, pour les artisans, pour beaucoup de gens comme ça qui ont le sentiment qu'on leur vole leur argent, qu'on leur vole le fruit de leurs efforts. Ça, c'est le bilan de 10 ans de macronisme, quand même. On est encore le pays qui recrute des fonctionnaires. L'année dernière, on en a recruté encore. On n'en finit pas d'en recruter. C'est Gabriel Attal qui les a passés à 4 jours par semaine.
Donc, il ne peut pas s'extirper
du bilan dans certaines administrations. Non, mais ce que je veux dire, c'est que,
là, il y a un moment donné,
moi, je trouve que c'est quand même presque insulter les Français que de penser qu'ils vont croire à quelque chose d'aussi énorme. C'est-à-dire, quand vous êtes comptable d'un bilan qui est quand même mauvais à la fin, sauf Choose France, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf l'attractivité, mais sinon, sur tout le reste, c'est une catastrophe. Vous pouvez pas arriver en disant, ah ben non, soyez quand même optimiste. C'est un peu comme un médecin qui vous aurait planté, votre cancer s'aggrave parce qu'il s'est trompé, et il vous dit, ah non, non, mais quand même, continuez à y croire, monsieur, et on va continuer mon traitement. Non, il y a un moment, faut changer de traitement.
Oui, le bilan est calamiteux, la situation est catastrophique et je pense qu'effectivement beaucoup de Français.
C'est sûr, Barbara, c'est pas l'optimisme.
Moi, si vous voulez, depuis 2017, je le dis qu'on va dans, le mur. Alors maintenant, c'est plus le mur, c'est le précipice. Donc, 2022, j'ai dit bon.
On a percé le mur et maintenant on tombe dans le précipice.
On creuse plus profond. Mais c'est que les Français qui l'ont voulu. Par contre, ça, moi, je suis désolée, hein, parce que vous voyez vraiment. Quand j'en entends certains qui, pendant des années, Macron par-ci, Macron par-là, et qui maintenant lui vomissent dessus, disent pique-pente de lui. Excusez-moi, hein, c'est vous qui l'avez mis là, c'est vous qui l'avez élu. Moi, je suis la conscience tranquille. J'ai jamais mis un bulletin de vote macroniste. Hein. Mais tous ceux qui, pendant au moins 5, 6 ans, 7 ans, et Macron par-ci, Macron par-là. Donc aujourd'hui, les Français doivent aussi, en partie, pour ceux qui ont voté pour lui, et ils ont revoté pour lui en 2022, assumer la situation dans laquelle on est. Monsieur Attal l'assume d'une certaine façon, parce que moi j'ai écouté son discours, il dit pas on a tout réussi, donc moi je le trouve quand même assez honnête là-dessus. Il est jeune, même s'il a un petit côté vieux jeune, mais il est jeune, il va pas tout nous tenir un discours comme nous ici, ah les gars, il y a plus qu'à se tirer une balle, regardez, il y a le précipice, on va tous tomber. Ça c'est évidemment, il veut être élu président de la République.
Il peut pas parler comme Barbara Lefebvre.
Bah non, parce que Barbara Lefebvre, elle s'en fout, elle a pas l'intention d'être présidente de la France. Donc lui, il a raison quand même de faire en sorte que les gens lèvent un peu la tête. Moi, ce que j'ai apprécié dans son discours, peu m'importe je regarde factuellement. Il a dit que le premier lieu d'action pour lui, c'est l'école.
Nationale. Ouais.
C'est l'école. Et je pense que c'est important parce qu'il a raison. Justement, si vous voulez donner de l'espoir et si vous voulez donner de l'avenir, faut aussi revenir aux fondamentaux. Il a cité notamment deux choses. D'abord, la laïcité. Alors, il s'est un petit peu approprié des réussites que moi, excusez-moi, je mets au solde de plutôt Jean-Michel Blanquer. Parce que c'est Jean-Michel Blanquer qui a remis l'école laïque au centre et les vrais principes laïques. Donc voilà, bon, lui, il a fait le petit coup de com' sur la baïa, mais c'est vraiment Jean-Michel Blanquer qui avait posé les bases de remettre un peu tout ça d'équerre. Et il a parlé de la question de PISA, de faire remonter le niveau des élèves. Ça, c'est important. On ne peut plus continuer à avoir un pays qui s'enfonce dans tous les classements internationaux. Un pays dans lequel les Français n'ont plus confiance dans leur école, c'est plus possible ça. Alors on n'a plus confiance dans la justice, on n'a plus confiance dans la police, on n'a plus confiance à l'hôpital, on n'a plus confiance à l'école.
Mais en 10 ans, ils pouvaient.
Donc vous
faire
voyez les... bien, voyez bien qu'il faut bien essayer effectivement que les gens lèvent la tête. On pourra pas avoir une campagne électorale qui sera le constat des échecs. Il faut des gens qui nous proposent quelque chose pour remonter sur tous ces domaines régaliens.
Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de concret, mais peut-être parce que c'est trop tôt. Mais en fait, c'est toujours. Mais c'est quand même. Quand on a un peu l'habitude des campagnes présidentielles, et ça fait quand même un moment que les grandes gueules suivent tout ça de près, ce sont quand même toujours les mêmes recettes. C'est-à-dire que moi, je retrouve en Gabriel Attal le Macron de 2017.
Exactement.
Le Macron 2017 vendait aussi de l'optimisme face à François Fillon qui avait au contraire un programme de sang et de larmes. Souvenez-vous du programme de François Fillon. C'était 400 à 500 000 fonctionnaires en moins.
C'était un excellent programme.
Voilà, d'accord. Mais c'était un programme assez dur. Et Emmanuel Macron, pour s'en distinguer, à l'époque, vendait l'optimisme, le côté start-up nation, etc. Je trouve en Gabriel Attal un peu les mêmes vieilles recettes. Et pardon, l'éducation, bien sûr l'éducation, mais ils disent tout ça. Souvenez-vous, François Hollande, dans sa campagne en 2012, mettait la jeunesse, l'éducation. En expliquant toujours un peu la même chose que c'est l'avenir de la France.
Hollande, c'était sur le côté l'enfant au centre du système et toutes ces âneries.
On peut être optimiste en disant la vérité.
Je suis d'accord.
Moi, je pense que si la France prend un bon chemin à partir de 2027, si elle décide de réduire ses dépenses publiques, si elle décide de baisser ses prélèvements obligatoires, si elle décide d'investir dans les bons domaines, la défense, l'éducation, la santé, si elle décide de tronçonner ailleurs, si on tient un discours de vérité aux gens, si on leur lâche un peu la grappe fiscalement, etc. Moi, je ne suis pas pessimiste pour le pays. Je le serais si, justement, des marchands de soupe qui ne veulent rien changer sont élus.
Alors, le problème, c'est
à ce moment-là, oui, je deviens.
Le problème, c'est que dans ce discours, ils ne proposent pas de revoir notre modèle social. Or, on n'arrivera jamais à faire des économies si on ne revoit pas notre modèle social.
Mais j'ai juste une petite nuance. Dans l'histoire de France, la France s'est retrouvée parfois dans des situations de ruine complète, économique et matérielle, bien plus grave qu'aujourd'hui. Et elle a remonté par des grands personnages historiques, par des grandes situations où il y a eu un élan. Mais à l'époque, elle était souveraine. Elle avait sa propre monnaie, elle avait ses propres frontières, elle pouvait décider de son propre sort. Aujourd'hui, nous sortir de l'ornière dans laquelle, en partie, nous nous sommes mis et dans laquelle la mondialisation telle qu'elle est nous a mises, et d'être incapable de faire les réformes nécessaires pour se sortir de cette ornière, elle est beaucoup plus difficile parce qu'on a des entraves, et notamment l'Union européenne qui nous met des entraves.
C'est pas l'Union européenne qui impose le taux.
Elle nous met des entraves.
Le prélèvement obligatoire sur les salariés, les indépendants, les artisans.
Je crois pas que l'Union européenne nous laisserait faire une politique à la
Millet. Tous ces gens qu'on étouffe.
Là où moi je suis
au contraire, voudrait qu'on fasse des économies.
Là où moi je suis optimiste, c'est que je trouve que la manière dont le gouvernement macronisme a utilisé toutes les cartouches de manipulation politique, j'ai l'intime conviction qui est presque devenue un espoir maintenant que les Français ne se laisseront pas avoir une deuxième fois dans toutes ces fourberies de...
Ah, t'es optimiste. Hein.
J'essaye, mais je ne suis pas optimiste
moi,
sur les mots de mon pays.
Parce que justement, on a vu comment les campagnes...
Sauf Mélenchon, Bardella.
Non, mais les campagnes électorales, on a vu comment, dans les dernières minutes, dans les derniers mois, ils arrivaient à nous retourner la sauce. Hein. On nous l'a fait le coup en 2017, on nous a refait le coup en 2022, comme il y avait l'Ukraine, fallait parler de rien.
En 2017...
Je me méfie. Hein.
Je ne suis pas d'accord, en 2017,
il y a eu un choix. En 2017, c'était différent, mais c'est pour ça, vous savez.
On a eu un choix.
Il faut pas.
On a empêché Fillon de se présenter.
Non, on n'a pas empêché, il a pu se présenter, il a fait 20%.
Oui, mais il y a des moments particuliers. Et je pense qu'on n'est plus dans le moment de 2017. Les gens veulent du vrai.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, Mathieu Vallée, le député européen Rassemblement National, l'ancien commissaire de police, pour revenir sur la violence à l'issue de la Ligue des Champions.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.